Ali Bennett, deux choses se sont produites depuis la signature initiale. Les Iraniens ont fait de grandes avancées dans leur capacité d'enrichissement de l'uranium et le temps a passé.
Le nouvel accord qui se dessine est de portée plus courte et plus faible que le précédent. Dans tous les cas, nous, Israël, nous nous préparons au jour d'après, dans toutes les dimensions, de manière à pouvoir maintenir la sécurité de notre population par nos propres moyens.
Il ne fait pas de doute que Téhéran profitera du nouvel arrangement pour financer le terrorisme régional, a encore estimé le Premier ministre israélien. Même ton adopté par le ministre de la Défense israélien Benny Gantz, qui s'exprimait lors de la conférence sur la sécurité de Munich. Il a proclamé que son pays, Israël, ne permettra jamais que l'Iran devienne un État à seuil nucléaire. En outre, le ministre israélien a affirmé que le programme de missiles balistiques à capacité nucléaire développé par l'Iran devrait être arrêté. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
L'actualité internationale au Brésil à présent. Dans la ville de Petrolis, le bilan humain des inondations s'établit désormais à 152 morts. La police a ajouté que 165 personnes étaient toujours portées disparues depuis la tempête de mardi. Et il est peu probable que des survivants soient désormais extraits des décombres, indiquent les autorités.
Les habitants de la Réunion appelés à se confiner à l'approche d'un nouveau cyclone.
L'alerte cyclonique rouge sera en vigueur à partir de 21h ce soir, heure locale. Les vols prévus demain matin ont été reportés et tous les établissements scolaires seront fermés.
Et puis ce fait divers, toujours en France.
Le décès d'une promeneuse de 25 ans, mortellement blessée par une balle perdue lors d'une battue au sanglier, relance le débat sur la chasse, un sujet clivant et propice dont nous parlerons dans quelques instants, Philippe.
Effectivement, dans Dimanche Politique. Pour l'instant, ce sont les sports.
Bonsoir Martin Guez.
Bonsoir Adrien, bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Et nous commençons, une fois n'est pas coutume, par du football et les premiers coups de griffe d'une panthère en Catalogne.
Ah oui, la panthère s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang et elle a rugi deux fois avec Barcelone, ses deux premiers buts sous le maillot blaugrana. Une frappe surpuissante pour commencer du pied droit dans la lucarne, un deuxième de l'intérieur du gauche. Le Gabonais s'est remis dans le droit chemin pour une victoire 4-1 du Barça à Valence lors de la 25e journée de Liga. Les Barcelonais qui passent 4e du classement à 15 points tout de même du Real Madrid, toujours leader. Notez que ce sont les deux premiers buts inscrits par Aubameyang depuis le mois d'octobre 2021. À l'époque, il était un joueur d'Arsenal en Angleterre.
L'Angleterre, justement, Martin, au Manchester United a déroulé.
Avec carton 4-2 des Red Devils face à Leeds, les hommes de Ralf Rangnick sont eux aussi quatrièmes à 17 points du voisin City. Carton aussi en Allemagne pour le Bayern Munich. 4-1, là encore, face à Grosser Force. Deux buts pour Lewandowski, un pour le Camerounais Eric Maxine Choupo-Moting. Mais Munich qui a 6 points d'avance en tête de Bundesliga sur Dortmund. Dortmund qui de son côté 2-0 en ce moment contre Mönchengladbach.
Et nous terminons notre tour d'Europe en France où les poursuivants du PSG peuvent légèrement réduire leur écart.
Oui, des Parisiens balayés 3-1 hier face à Nantes. Nice est passé sous la barre des 15 points d'écart en battant Angers 1-0. Les Niçois sont 3e et Marseille peut revenir à 10 longueurs en cas de victoire face à Clermont. Des Marseillais qui peuvent compter sur Arkadiusz Milik, le Polonais qui est en très grande forme à la pointe de l'attaque. Il est bien épaulé, il faut dire, par une recrue hivernale, le Congolais Cédric Bakambu. Déjà auteur de deux buts en trois matchs de Ligue 1, une adaptation express façon Fimbu pour l'attaquant de 30 ans.
Déjà je me sens très bien, j'ai été très bien accueilli, j'ai trouvé un beau vestiaire, belle ambiance, rien à dire. En termes d'acclimatation, je m'attendais à pire, donc non, j'appréhendais un petit peu avant de venir. Après sur le terrain, petit à petit, les automatismes commencent à se mettre en place. Je suis encore dans ma période d'adaptation et je vais continuer à travailler pour m'acclimater le plus rapidement possible. J'ai confiance en moi, je sais que voilà, j'ai encore beaucoup de travail à faire pour atteindre mon meilleur niveau. Et je travaille pour en tout cas, et j'espère que je vais l'atteindre le plus rapidement possible.
Et la chicotte sera-t-elle de sortie ce soir, Adrien, à vérifier dès 19h45, temps universel, pour ce match Marseille-Clermont. À noter que dans les autres rencontres, le Tunisien Wabi Kazri et le Sénégalais Habib Diallo se sont répondus de partout entre Saint-Etienne et Strasbourg. Enfin, Rennes a battu 3-4-1.
Et nous terminons ce journal des sports avec vous, Martin Guez, par les Jeux Olympiques d'hiver qui sont bel et bien terminés à Pékin.
Et pour conclure, la traditionnelle cérémonie de clôture. La Norvège, comme en 2018 à Pyeongchang, termine en tête du classement des médailles avec 37 récompenses devant l'Allemagne et devant la Chine, le pays organisateur qui passe de la 16e à la 3e place, tandis que la France reste assez stable, 9e avec 15 médailles il y a 4 ans. La délégation tricolore recule d'une place avec une médaille en moins, 14 récompenses obtenues en Chine, dont 5 pour le seul Quentin Fillon-Maillet, le biathlète jurassien qui repart de Chine avec 2 titres et 3 médailles d'argent. C'était bien évidemment lui qui a été choisi comme porte-drapeau de la cérémonie de clôture.
C'est extraordinaire. Pendant que je portais le drapeau, je me dis, je vis quand même des moments qui sont incroyables, parce que quand j'étais petit, je rêvais des Jeux Olympiques et tout ça, mais voilà, porter le drapeau à la fin des Jeux Olympiques, c'est dire déjà que mes Jeux sont réussis, et puis je représente la France. Donc ouais, je suis vraiment très fier d'avoir porté ce drapeau français pour cette cérémonie. C'était juste du pur bonheur, donc sans aucune pression, j'ai profité un maximum, et puis ça permet de finir en beauté ces Jeux Olympiques avec une belle cérémonie. Ouais, c'était beaucoup d'émotions.
Voilà la belle émotion de Quentin Fillon-Maillet au micro de Christophe Diremzian. Rendez-vous dans 4 ans pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver. Ce sera en Italie, à Milan, à Cortina d'Ampezzo. Et rendez-vous dès ce soir dans Mondial Sport à partir de 21h30, temps universel, avec Thomas de Saint-Léger à la présentation.
Et merci à toutes les équipes de Radio France Internationale qui nous ont permis de suivre et de nous faire vivre ces Jeux Olympiques, où que vous soyez sur la planète. Merci de nous écouter. Restez à l'écoute des RFI, l'info continue. Il est 19h10 à Paris, 18h10 à Dakar. RFI Soir, la suite avec vous, Philippe Le Caplan.
Adrien Delgrange qui revient à 21h pour le journal en français facile.
Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Philippe Le Caplan.
Le décryptage de la vie politique française est maintenant sur RFI. Dimanche politique avec vous, Bernard Sananès, bonsoir.
Bonsoir.
Président de l'Institut de sondage ELAB. Alors, tout indique que la Russie ce soir est sur le point d'envahir l'Ukraine. C'est ce que pense le ministre américain des Affaires étrangères. Pour sa part, le chef de l'État français a eu aujourd'hui une nouvelle conversation au téléphone avec son homologue russe. Ils sont convenus d'une réunion rapide du groupe de contact trilatéral afin de parvenir à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Ce que fait la France et Emmanuel Macron est largement, bien évidemment, commenté par la classe politique. Marine Le Pen sur France Inter à la mi-journée.
Mais je pense qu'il serait raisonnable pour que les tensions s'arrêtent. On admette que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. D'ailleurs, je pense que Emmanuel Macron a d'ores et déjà indiqué qu'il s'opposerait à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Je pense que c'est raisonnable. Je pense qu'il faut réclamer évidemment à la Russie de sortir définitivement du Donbass. Il faut reconnaître l'intégration de la Crimée à la Russie. Et il faut que par un accord, encore une fois, entre la Russie et l'OTAN, l'Ukraine reste un État tampon, c'est-à-dire un État neutre sur le plan international.
Quant à Éric Zemmour sur Europe 1 ce matin, il a dit ce qu'il ferait s'il était président.
Je proposerai un grand traité européen de pacification qui dira les frontières de l'Ukraine doivent être reconnues par la Russie, mais en échange, l'Ukraine doit s'engager et l'OTAN doit s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. L'extension de l'OTAN depuis 30 ans à l'Est est vue légitimement comme une agression par la Russie. Nous sommes vus par les Russes comme les petits télégraphistes de Washington. Notre parole ne vaut rien en vérité.
À l'autre bout de l'échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon sur France 3 tout à l'heure.
Les Français doivent être non alignés, ni avec l'un ni avec l'autre. Les Russes ne doivent pas passer la frontière de l'Ukraine, qui doit être respectée absolument, et les Américains ne doivent pas chercher à annexer l'Ukraine dans l'OTAN.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est ça que cherche Emmanuel Macron, justement ?
S'il travaille à la désescalade, c'est une bonne chose. L'inconvénient qu'il a, cet homme, c'est qu'il n'est pas crédible. Pour avoir une fois dit, nous allons défendre l'intégrité physique de l'Ukraine, les Russes savent parfaitement que les Français sont hors d'état. D'ailleurs, Poutine a dit une fois, d'une manière assez déplaisante, je trouve, que les Français n'étaient pas dans l'équation.
Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB, l'Ukraine. Quel peut être l'impact de ce dossier, de ce sujet international sur la campagne française ?
Écoutez, traditionnellement, on constate et on analyse le fait que les Français se tiennent un peu à distance des grandes questions politiques étrangères pour juger des responsables politiques français. On n'a pas vu d'histoire récente d'impact sur les intentions de vote. Les problèmes qui préoccupent les Français d'abord, ce sont le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, la santé, l'environnement. Et d'ailleurs, on note que sur les autres questions, politique étrangère, politique européenne, un sondage de nos confrères de l'IFOP publié ce matin dans le journal du dimanche, montre que c'est sur ces questions que le président de la République est le mieux jugé. Alors, il peut y avoir un impact sur l'image, sur ce qu'on appelle la présidentialité, évidemment. Si, par exemple, le conflit était évité, et si, en tant que président de l'Union européenne, pour 6 mois, Emmanuel Macron montrait qu'il avait eu un rôle dans cet évitement du conflit, ça pourrait être mis à son crédit. À l'inverse, si le conflit a lieu, il n'en serait pas forcément tenu pour responsable, d'autant, et on l'a entendu dans les sonores que vous avez diffusées à l'instant, on voit bien que pour les oppositions, ce n'est pas facile de faire entendre une voix différente qui ne serait pas simplement une voix pro-Poutine, dont les Français n'ont pas forcément une très bonne image à l'intérieur de nos frontières.
En tout cas, l'Ukraine est un sujet de préoccupation pour Emmanuel Macron, alors qu'il s'apprête à déclarer sa candidature, ce qui va le ramener sur des sujets franco-français.
Oui, et à ce titre, évidemment, un conflit pourrait perturber son entrée en campagne, au-delà des conséquences graves qu'il pourrait avoir sur la scène diplomatique. Je vois notamment un impact très fort, c'est qu'on sait qu'Emmanuel Macron, c'était le cas en 2017, on comprend que ça va être aussi une des thématiques de 2022, veut incarner l'optimisme. C'est très difficile d'incarner l'optimisme si un conflit est à vos portes, ou en tout cas à 3 ou 4 heures de Paris. C'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est que pour dérouler son programme, pour dérouler son entrée en campagne, il a besoin, comme on dit en communication politique, que la piste soit dégagée, qu'il n'y ait pas d'éléments qui viennent perturber cela. Alors, il peut attendre encore une semaine. Après, évidemment, on sera dans la dernière semaine limite pour se déclarer candidat, pour trouver à la fois la solennité, mais aussi la nouveauté. Vous savez, c'est toujours une figure compliquée quand vous êtes sortant, quand vous êtes candidat sortant. Il faut, bien sûr, capitaliser sur le bilan, mais on sait qu'on ne vote jamais sur un bilan. On attend toujours du changement. Que l'on soit du changement pour le sortant, que ce soit le changement pour ceux qui présentent une alternative, comment le président de la République va montrer un changement qu'il espère porter pour ce deuxième mandat? Comment va-t-il répondre à cette question qui est finalement assez simple? Un deuxième mandat, pourquoi faire? C'est tout l'enjeu de cette attente avant les derniers jours qui nous séparent de sa candidature.
Venons-en à ce qui s'est passé hier dans le Cantal. La mort d'une randonneuse qui se promenait tuée par une balle perdue lors d'une chasse aux sangliers, ce qui replace la chasse au cœur de la campagne électorale. Encore combien de morts avant qu'on ne décide de réguler la chasse? Pratique dangereuse et inhumaine, interroge David Béliard, écologiste élu à la mairie de Paris. Plusieurs personnalités politiques réclament l'interdiction durant certaines périodes. Écoutez ce que répondait Jean-Luc Mélenchon sur France 3 ce midi, quand on lui demandait s'il entendait prendre une telle mesure s'il était élu à l'Élysée.
Si je faisais ça, je prendrais un risque considérable d'ouvrir dans ce pays un bazar du tonnerre de Dieu dont personne ne verrait le bout.
Donc c'est pas à l'ordre du jour.
C'est pas à l'ordre du jour, mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'interdiction, je le dis très clairement, des chasses cruelles, la chasse à la glu. Par contre, pour ce qui concerne les conflits d'usage, oui, il faut que la chasse ne soit pas possible les week-ends et pendant les vacances scolaires, parce que c'est là que le risque serait le plus grand.
Bernard Sananès, la chasse s'invite donc une fois de plus régulièrement finalement dans le débat politique en France. Est-ce qu'elle est un marqueur politique? Pour dire les choses autrement, le chasseur est-il plus de droite que de gauche?
Écoutez, oui, il est un peu plus marqué politiquement, mais il est marqué parfois plus à droite, parfois aussi dans les électeurs issus des milieux populaires pour Marine Le Pen. Il y a eu en France le succès, vous en souvenez, de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui avait rassemblé jusqu'à 5% des suffrages pour une élection européenne. Je ne sais pas, à l'heure où nous parlons, si ce dramatique accident va rester comme un fait divers dramatique, encore une fois, ou s'il va impacter durablement la campagne au-delà de 24 ou 48. Parce que quand on regarde l'opinion des Français sur cette question, c'est un sondage publié récemment de nos confrères de l'Ipsos, un Français sur deux est plutôt défavorable à l'idée de la chasse, mais 30% y sont indifférents. En revanche, une majorité de Français, c'est légèrement en recul, considère pour 6 Français sur 10 que ça reste une tradition culturelle, patrimoniale de notre pays. Mais par contre, bien sûr, les questions de sécurité, les questions de réglementation, notamment en rapport au bien-être animal, qui est un thème de préoccupation très, très important, chez les Français, qui a beaucoup progressé ces derniers mois. À ce moment-là, il peut y avoir débat sur ces questions de bien-être animal. Pour l'instant, attendons de voir si ça s'installe vraiment plus de 48 heures au cœur de cette campagne, qui finalement, d'ailleurs, j'en profite pour le dire, ne s'inscrit encore, ne capitalise, ne se cristallise sur aucun débat finalement, à part la question du pouvoir d'achat, qui semble majeure à la fois dans les attentes des Français et malgré tout aussi dans les positionnements des différents candidats.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Lecaplain.
L'éternelle question des parrainages se repose aujourd'hui. Elle sème l'inquiétude chez bon nombre de candidats. Il ne reste plus que 2 semaines pour réunir les précieux sésames. Éric Zemmour déclare qu'il est très possible qu'il n'obtienne pas les 500 parrainages d'élus obligatoires pour valider sa candidature.
Je n'ai aucune certitude. C'est très dur. Il faudrait savoir quand même le temps pris par cette occupation. Au début, le général de Gaulle, d'ailleurs c'était limité à 100 maires, oui, le faisait pour ne pas avoir de candidature de fou, de fantaisiste, de voyez bon. Puis on a mis à 500, pourquoi pas. Mais à partir du moment où M. Hollande a rendu public tous les noms des maires, Il les a mis sous la pression de leur parti politique, des régions, des départements qui font pression, qui leur disent « si tu choisis Zemmour, il n'y a pas de subvention pour ta piscine. On va casser ta majorité municipale. »
Toujours à l'extrême droite, Marine Le Pen affirme rencontrer le même genre de difficultés.
« Je n'ai jamais été aussi inquiète. Beaucoup de candidats sont dans la même situation que moi. C'est-à-dire que le réservoir s'est totalement asséché. Pourquoi ? Parce que les maires, depuis des décennies, disent « ce système ne fonctionne pas et que personne au pouvoir n'a voulu le changer. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, il me manque une cinquantaine de parrainages. J'appelle tous les maires, parce qu'il y a urgence, il y a 8 jours ouvrables encore pour réunir les parrainages. Hein. J'appelle tous les maires qui trouveraient inouï, scandaleux, gravissime que quelqu'un qui a été au second tour de l'élection présidentielle et qui peut gagner cette élection en 2022 ne puisse pas, pour des raisons administratives, être présente dans cette compétition électorale.
À gauche, Jean-Luc Mélenchon se plaint lui aussi d'avoir des difficultés à obtenir les 500 signatures nécessaires pour prétendre à l'Élysée. On a l'impression qu'à chaque présidentielle, c'est la même chose. On entend le même refrain, Bernard Sadanès.
C'est vrai, mais on a le sentiment cette fois-ci que ce n'est pas surjoué, si vous me passez l'expression. On a le sentiment qu'on risque un accident démocratique majeur dans un pays qui n'est pas à l'abri de secousses hein, fortes, on l'a vu, dans un pays qui doute parfois du fonctionnement de sa démocratie. On l'a vu également au moment des Gilets jaunes. Et que, effectivement, si un des candidats qui aujourd'hui, je ne prends pas les sondages comme boussole, mais en tout cas, si un des candidats qui a un impact certain dans l'opinion ne pouvait pas, qu'il s'agisse de Jean-Luc Mélenchon, qu'il s'agisse d'Éric Zemmour, qu'il s'agisse de Marine Le Pen, ne pouvait pas être en mesure de présenter sa candidature, on aurait certainement une perturbation majeure, un risque majeur sur notre vie démocratique. Alors, d'autres arguments s'entendent. Hein. Certains disent finalement, il y a des petits candidats qui se sont mis en tête depuis des mois et des mois de chercher ces
Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, par exemple.
Voilà, et qui sont arrivés parce que ça fait partie de leur préparation, peut-être. Mais j'allais dire, si vous me permettez, pas en tant que sondeur, mais en tant que citoyen cette fois, c'est vrai que ce système, qui a pu se justifier à un moment, en tout cas, doit sans doute être toiletté, aménagé. François Bayrou a fait une proposition, je veux dire, ad hoc, là, pour cette période, qui serait de faire un peu une banque d'élus qui permettrait de donner des parrainages aux candidats qui en manquent. Ça peut être une solution immédiate. À terme, il faudra sans doute revoir ce système.
Sur les thèmes électoraux que défendent les uns et les autres, je vous propose d'écouter Marine Le Pen sur BFM. La candidate du RN s'est presque posée en défenseur des valeurs de gauche. Pour ça, je vous propose de l'écouter. Marine Le Pen sur les valeurs de gauche qu'elle défend.
Moi, je suis l'avocat du peuple. Je défends le peuple parce que personne d'autre ne le défend. Il y a des patriotes à gauche. Il y a des gens qui croient en la France. Il y a des gens qui défendent la souveraineté. Il y a aussi des gens qui ont cette vision que j'ai toujours eue, cette sensibilité sociale, pardon, que je ne retrouve pas du tout chez quelqu'un comme Éric Zemmour. Le mépris qu'il exprime à l'égard des gens qui sont dans la difficulté me fait terriblement penser à Emmanuel Macron, terriblement penser à cette vision qui est une vision qui consiste à s'intéresser exclusivement à ceux qui en réalité n'ont pas besoin qu'on les aide.
Bernard Sadanès, étonnant de la part de Marine Le Pen de se poser en candidate de la gauche.
En tout cas, pas des milieux populaires, parce que Marine Le Pen est aujourd'hui, comme d'ailleurs c'était le cas en 2017, en concurrence avec Jean-Luc Mélenchon à l'époque, mais aujourd'hui, elle est la candidate qui, pour l'instant, dans les enquêtes, devance tous les autres. Dans les milieux populaires, elle rassemblerait plus d'un quart des suffrages, que ce soit chez les employés ou chez les ouvriers.
Et c'est ce qui ressort de vos études à l'Institut de sondage Elab, Bernard Sadanès. Merci pour vos analyses et commentaires dans RFI Soir et Dimanche Politique.
RFI Soir, Philippe Le Caplin.
Tout autre chose, dans moins de 10 ans, un tiers de la capitale indonésienne sera englouti sous les eaux. En cause, la surpopulation, un pompage excessif des nappes phréatiques qui provoque l'affaissement des sols, des inondations et la hausse du niveau de mer provoquée par le réchauffement climatique. En 2019, la décision a donc été prise de construire une nouvelle capitale à 2000 km de là, à Kalimantan. Mais ce projet titanesque sur la partie indonésienne de l'île de Bornéo suscite de nombreuses controverses, Yelena Tomic.
La nouvelle capitale s'appellera Nusantara. Sa construction, retardée par la pandémie, devrait s'étaler en plusieurs étapes jusqu'en 2045. Ambitieux, le gouvernement envisage même un déménagement du pouvoir exécutif dès 2024. La future capitale verte sera construite sur l'île de Bornéo, connue pour abriter l'une des plus grandes forêts tropicales au monde. L'ONG l'Alliance des peuples indigènes de l'archipel lance un cri d'alarme. Muhammad Arman est le directeur de la politique, du droit et du plaidoyer pour les droits de l'homme.
Nusantara occupera à terme plus de